Lundi 15 juillet. Josie est réveillée par les enfants d'Alix qui se préparent pour l'école. Pendant un moment, ces bruits la rassurent, comme l'écho d'une journée heureuse passée à la plage ou celui d'un Noël d'enfance. Pendant un moment, elle se replonge dans les premiers temps de sa maternité, quand ses filles étaient adorables, que son mari était beau et fort. Puis elle se dit qu'en réalité, cela n'a peut-être jamais été le cas, qu'elle envisage cette époque par le biais d'une lunette mal réglée. Au début, ça devait tout de même être mieux. Forcément. Sinon, pourquoi diable se serait-elle infligé ça? Elle sort du lit et passe la robe de chambre en lin qu'Alix lui a prêtée. Elle attrape le chien, enfile ses chaussons et descend l'escalier. « Bonjour !» se signale-t-elle en entrant dans la cuisine. Les enfants la fixent, bouche bée. Les voir tous les deux dans l'uniforme de Parkside la trouble et elle se voit imiter leur expression. Le chien grogne en apercevant le chat nuage sur le plan de travail. « Bonjour Josie !» lance Alix, qui porte une tunique blanche brodée, un pantalon de yoga et un bandeau pour écarter ses cheveux de son visage. Elle est pieds nus et coupe une banane en tranches au-dessus d'un bagel toasté. On dirait que l'une de ses photos Instagram a pris vie. « Approchez, qu'est-ce que vous voulez manger ?» Josie secoue la tête. « Rien, merci. Du café, c'est tout. Je peux utiliser la machine ?»« Oh, ne vous dérangez pas, Nathan va s'en occuper. Nathan ?» Son mari apparaît sur la terrasse, un bol de céréales vide et un mug à la main. « Est-ce que tu peux préparer un cappuccino pour Josie ?» Un regard antipathique assombrit son visage. Il tente de le masquer avec un sourire sinistre. « Bien sûr. Du sucre ?»« Un sel, s'il vous plaît. » acquiesce-t-elle. « Merci. » Elle s'assied sur l'une des chaises dépareillées de la table, en face de Léon, qui la fixe avec un air soupçonneux. « Mes filles allaient dans la même école que toi avant, quand elles étaient petites. Elles sont grandes maintenant. Elles sont où ?» Erin s'est installée chez une amie et Roxy voyage.
Donc ce sont des adultes ?
Oui, absolument, répond Josie qui se racle la gorge en sentant sa voix prête à se briser. On m'a dit que Mandy travaillait toujours au secrétariat ? Léon hoche la tête sérieusement. Josie regarde ses mains encore potelées de cette chose inconnue qui vit sous la peau de jeunes enfants. Elle voit une égratignure sur une phalange de son pouce. Et elle se souvient des croûtes, des verrues, des poux, des ongles incarnés, des dents de lait pendouillantes et de tous les autres petits défauts parfaits des petits. Elle résiste à la pulsion de caresser cette plaie, de lui donner un bisou magique. Elle s'empêche de lui dire « Oh non, tu es un bobo !» Elle ressent si violemment, si viscéralement la perte de ses enfants qu'elle pourrait hurler de douleur. Elle parvient à sourire. Mandy était déjà là quand mes filles allaient dans ton école. Léon promène le dos de sa main le long du bord de la table avant de lever les yeux vers elle.
Pourquoi est-ce que tu as le même âge que ma maman, mais que tes filles sont adultes alors que nous on est petits?
C'est une histoire de mathématiques, ça. Léon lui lance un regard interrogateur. « Si j'ai 45 ans et que ma plus grande fille en a 23, alors j'avais quel âge quand elle est née ?»«
C'est 45 moins 23 »
demande-t-il en faisant une grimace d'effort.
« Oui, c'est exactement ça, petit génie. » « Donc, ça fait... »
Pendant qu'il compte, il déplie ses doigts sur la table l'un après l'autre, comme si une fleur était en train d'éclore dans sa main.
« 22 ?
Oh là là ! Tu as quel âge déjà ?
J'ai 6 ans.
6 ans ? Et tu fais déjà des opérations si compliquées ? Oh, c'est incroyable ! Oui, 45 moins 23, ça fait 22. C'est l'âge que j'avais quand ma première fille est née. Et 45 moins 6 ?
C'est facile, ça. 39.
Oui, Donc ta maman avait 39 ans quand tu es née. Et c'est pour ça que mes fils sont des adultes et que toi tu n'as que 6 ans. Chacun fait les choses à son propre rythme. Josie se tourne vers Alix qui sourit. Il est très doué en maths, votre fils. Oui, vraiment. Mais Léon est très doué pour tout. N'est-ce pas, mon chat? Sauf pour être prêt à l'heure où on doit partir à l'école. Allez, on y va. Tu as des chaussures à mettre, je crois. Rapidement, la maison est vide. Nathan est parti au travail et Alix à l'école pour les petits. Ce qui veut dire qu'elle ne sera pas de retour avant une demi-heure. Josie est seule. Elle fait le tour de la cuisine et observe les dessins accrochés au mur des enfants. Elle cherche des éléments qui témoigneraient de leurs angoisses, de leur noirceur, et repense aux dessins alarmants qu'Erin et Roxy faisaient quand elles étaient petites, aux expressions inquiètes des enseignants lors des réunions avec les parents, quand ils lui montraient des exemples soulignant ce qu'ils appelaient des signes de détresse émotionnelle. Mais ici, elle ne voit que des soleils jaunes, des fleurs oranges et des parents heureux et souriants. Il s'agit de dessins d'enfants équilibrés qui vivent dans un foyer heureux. Elle détache un croquis réalisé sur un tout petit bout de papier. C'est une femme représentée avec moult détails, portant un immense nœud dans les cheveux et tenant en laisse un petit chien qui ressemble un peu à Fred. Dessous est inscrit le nom Tiny. Josie ne sait pas qui est cette femme, ni ce chien. Mais l'image est si pure et parfaite qu'elle a besoin de la posséder. Elle la glisse dans la poche de sa robe de chambre et réorganise les dessins attenants pour cacher le trou. Puis elle remarque un calendrier où figurent des photos de famille. Ses yeux se portent sur le samedi qui vient. Voilà. Zoé et Pétale. Zoé est la sœur d'Alix. Une paix intérieure envahit Josie. Alix ne lui a pas menti. Il a vraiment prévu que sa sœur vienne samedi. Elle sourit discrètement et touche l'inscription sur le calendrier du bout des doigts. Elle ouvre ensuite le réfrigérateur pour explorer son contenu. Elle est surprise d'y trouver des bâtonnets de fromage et des mini-saucissons, mais rassurée de tomber sur un pot de quelque chose qui s'appelle du skyr et sur une barquette d'une mixture nommée Baba Ganouche. Elle devrait probablement être douchée et habillée quand Alix rentrera de l'école, alors elle remonte l'escalier. Au premier étage, il y a 3 pièces. La chambre d'Alix et de Nathan, celle de Léon, et au fond de la maison, donnant sur le jardin, un petit bureau. Josie s'approche de la pièce, puis s'y aventure. Un bureau sous la fenêtre, un mur couvert de bibliothèque. Et là, au fond de la pièce, ce qui ressemble à un canapé-lit. Elle soulève le coussin de l'assise qui cache un mécanisme métallique, puis remet le tout en place. Il y a donc une autre pièce libre dans la maison. Elle n'a pas besoin de s'en aller samedi. Elle sourit et monte au dernier étage, dans sa chambre, à côté de celle d'Elisa. Elle n'est pas prête de partir. Loin de là. Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. Une série originale Netflix. 3 jeunes gens apparaissent à l'écran, perchés sur des tabourets dans un bar peu éclairé. 2 femmes et un homme. Ils sont habillés de façon décontractée, en jeans et t-shirt. Ils arborent tous des tatouages et l'une des jeunes femmes porte un bonnet. Un bandeau apparaît. Harry, Juno et Dan, abonnés à la plateforme de jeux vidéo Glitch. L'homme s'exprime d'abord avec un accent américain.
Alors je crois qu'on faisait rien de spécial cet après-midi-là. On avait invité des amis et bu quelques bières. Et c'était en juillet, il faisait chaud. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, donc on faisait moins attention que les autres jours. On n'était pas captivés, disons.
D'habitude, vous étiez captivés?
Ouais, carrément. Enfin, elle était incroyable. On la connaissait que sous son pseudo. Erased.
Son nom de joueuse, c'était Erased?
Ouais. Et je vois aujourd'hui qu'il y avait du sens à ça. Que ça reprenait les premières lettres de son prénom et que c'était en même temps un commentaire sur sa vie. effacée. On savait rien d'elle. Pour nous, c'était Erez, c'est tout. Elle jouait devant un fond vert, genre, donc on voyait pas sa chambre. Ça donnait l'impression qu'elle était dans un entrepôt vide. Et elle était très calme. Elle murmurait, en fait. Ce qui est très inhabituel dans le monde du stream. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle était si cool. Donc d'abord, c'est le bruit qui nous a alertés. On s'est dit que quelque chose de bizarre se tramait.
Derrière votre écran?
Ouais, on l'a vu se lever de sa chaise, ce qu'elle faisait jamais. Elle bougeait jamais. Elle a disparu et tout était à moitié flou à cause du fond vert. Vous voyez, ça perturbe les mouvements normaux. Puis il y a eu des hurlements, des cris, des coups, et ça s'est arrêté. Un silence de mort. Sa chaise, elle était encore là, vide. On a regardé, 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 mais elle revenait pas. Alors on a commencé à s'écrire, genre dans le monde entier. Mais personne ne savait où elle vivait. Personne connaissait son vrai nom, on savait absolument rien d'elle.
La fille au bonnet prend la parole.
On avait l'enregistrement de toute la scène. J'ai appelé la police, ils étaient là, genre... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Elle est à l'autre bout du monde.
On a envoyé la vidéo à Glitch. Ils savaient pas où elle se trouvait non plus, ils avaient seulement son adresse IP et son mail.
Ils nous ont dit qu'elle était basée dans le nord de Londres.
Donc on s'est mis à écrire à tous les gens qu'on connaissait qui vivaient là-bas. On est devenus complètement obsédés par cette histoire. D'un coup, c'est devenu complètement viral. Dans la communauté, on parlait que de ça. Et là, alors qu'on était plus bien loin de découvrir son identité et son adresse, l'affaire a explosé. Et ça, putain, ça nous a retourné le cerveau. On était vraiment, vraiment sur le cul.
9h30. Josie est prête, habillée, installée à la table de la cuisine quand Alix rentre après avoir déposé les enfants à l'école. Le chien est dans le jardin, il renifle les parterres de fleurs. Alix remarque qu'elle a tenté de dissimuler les dégâts sur son visage avec du maquillage et se demande où elle a bien pu en trouver. Elle est arrivée ici dans la nuit de samedi avec son petit sac à main et son chien, c'est tout.
« Vous avez meilleure mine », souligne-t-elle en désignant son visage. « Merci. Ça me rendait malade de me retrouver face à un film d'horreur dès que je croisais un miroir. J'ai trouvé un tube de quelque chose dans les tiroirs de la salle de bain. J'espère que ça vous dérange pas. »
Alix secoue la tête sans réfléchir. Elle est convaincue qu'il n'y avait ni fond de teint ni maquillage dans les tiroirs de la salle de bain de la chambre d'amis. Mais peut-être qu'un invité en a oublié sans qu'elle s'en rende compte.
« J'ai deux ou trois choses à faire dans la maison et puis on pourra s'y mettre. Ça vous convient ?»«
Absolument. Je suis très bien ici, dans votre belle cuisine. »
Alix lui adresse le sourire le plus chaleureux qu'elle puisse convoquer et monte aux chambres. Elle défait les draps sales de Léon et les roule en boule. Elle refait le lit avec de la literie propre et vide sa corbeille à papier dans un sac noir. Elle répète ce manège dans sa chambre et sa salle de bain. En avançant dans la maison, une sensation de malaise l'envahit. Elle essaie de l'évacuer. En vain. Tout lui semble bancal, dérangé. Le chien jappe dans le jardin et elle s'approche de la fenêtre. Fred fixe un écureuil réfugié dans un arbre. Alix se figure Josie assise à la table de la cuisine, avec son étrange affabilité, son sourire placide. Elle ne ressemble pas à une femme qui a été agressée par son mari 3 jours plus tôt, qui a dû s'échapper en pleine nuit et n'est pas rentrée chez elle depuis. On ne croirait pas qu'elle se trouve au centre d'un drame familial sordide. Elle a l'air d'être heureuse. Alix descend le linge sale et le sac poubelle et la retrouve dans la position exacte où elle l'avait laissée.
« J'en ai pour 2 minutes !»
lui lance-t-elle en passant dans la buanderie.
« On n'est pas pressé. » La voilà, cette touche de gaieté étrange, dérangeante.
Quelques minutes plus tard, elle s'installe dans le studio, chacune avec son café et son casque sur les oreilles. Il est presque 10 heures quand Alix lance l'enregistrement.
« Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. » Une série originale Netflix. Dans une reconstitution dramatisée, une jeune fille est assise sur un tabouret dans la cuisine ouverte de l'appartement de Josie.
Elle rit à gorge déployée à ce que vient de lui dire une jeune actrice incarnant Roxy Fair. L'actrice qui joue Josie est assise dans le canapé, lisant un magazine, un sourire aux lèvres. Un bandeau apparaît. Enregistrement du podcast d'Alix Summer, 14 juillet 2019.
Il faut que je vous parle de Brooke.
Brooke.
Oui. C'était l'amie de Roxy. Au collège. Avant elle, Roxy n'avait jamais eu de copine. Mais elle est arrivée dans sa classe au début de la troisième. Et elles sont tout de suite devenues inséparables.
L'écran montre deux adolescentes assises sur un lit, les jambes croisées, jouant sur leur téléphone et riant.
Brooke était rebelle, comme Roxy, et avait la langue bien pendue. Elle était téméraire aussi. Elle n'avait peur de rien, ni de personne. Mais elle me plaisait car elle avait une bonne influence sur Roxy. Cette année-là, ma fille a mieux travaillé à l'école. Brooke l'a convaincue que le brevet, c'était important. Et puis elle était amusante. Nous n'étions pas une famille drôle. Pas comme ça. Mais Brooke l'était. Et elle a amené de la joie chez nous. Elle est devenue une partie de la famille. Elle vivait dans un tout petit appartement, avec un demi-frère et une demi-sœur très jeune. Elle ne s'entendait pas avec son beau-père. Il y avait des problèmes à la maison, donc je crois que notre appartement était une sorte de refuge pour elle. C'était une période merveilleuse quand j'y repense. Quand la fin de leur seconde est arrivée, il y avait des examens et Brooke était très souvent à la maison pour réviser avec Roxy.
Les deux jeunes filles sont désormais assises au sol, absorbées par la lecture de cahiers.
Un jour, juste avant le début des examens, tout s'est terminé brutalement. Roxy est rentrée des cours en disant qu'elle s'était disputée violemment. Qu'elle avait donné un coup de poing à Brooke. Elle lui avait ouvert la lèvre. On a reçu un coup de téléphone du lycée qui nous convoquait. Et Roxy a disparu. En plein pendant les examens. Introuvable pendant 3 jours entiers. Quand elle est enfin rentrée, elle était toute sale. Traumatisée. Elle nous a dit qu'elle avait été à la rue, puis qu'on l'avait emmenée dans un refuge, et qu'elle n'avait pas dormi depuis 3 jours. Je lui ai fait couler un bain, elle y a passé plus d'une heure.
La jeune actrice qui incarne Roxy est plongée dans une baignoire dans une salle de bain sombre.
Puis quand elle en est sortie, elle m'a raconté ce qui était arrivé. Et elle m'a dit, pour Brooke et Walter.
Il y a un long silence. À l'écran, Roxy disparaît sous la surface de l'eau du bain, ses cheveux flottant autour de sa tête.
Walter? Il l'avait manipulée, dès le début. Il s'y était pris exactement comme il l'avait fait avec moi. Chaque fois qu'elle était chez nous, quand j'avais l'impression qu'elle faisait partie de la famille, il y avait plus que ça. Et puis comme il l'avait fait avec moi, il lui a offert un collier. Il l'avait invitée au pub. Avait versé un shot de vodka dans sa limonade, et le jour de ses 16 ans, il avait couché avec elle.
Après un fondu au noir, on découvre une jeune fille assise sur un tabouret, dans un studio sombre. La voix de Josie reprend.
Un jour, alors que j'étais au travail et que Roxy passait un examen au lycée, Walter avait invité Brooke à la maison et avait couché avec elle dans notre lit. Dans notre lit. Comment Roxy l'avait-elle appris? Sa sœur le lui avait dit. Il pensait qu'Erin ne les remarquerait pas, vu son comportement habituel et surtout quand elle joue. Elle avait compris. Elle les avait entendus. Puis par l'entrebâillement de la porte de sa chambre, elle avait vu Brooke partir. Alors elle l'avait dit à Roxy quand elle était rentrée du lycée. Le lendemain, Roxy était allée en cours. Elle lui avait cassé la figure. Elle ne l'avait pas loupée.
L'écran alterne entre la reconstitution d'une scène où deux jeunes filles se battent dans la cour d'un lycée et la jeune fille assise sur le tabouret dans la pénombre.
Quelque temps après sa première fugue, Roxy est partie pour de bon. Je ne l'ai pas revue depuis.
Un flash illumine brièvement le studio où la jeune fille est installée sur le tabouret, éclairant une petite partie de son visage. Le générique de fin débute. 11h. Josie ne quitte pas Alix des yeux. La journaliste a l'air médusée, épouvantée.
Je sais, reprend Josie. Je suis désolée, c'est dégoûtant. Mais voilà. C'est ça, la vérité de l'homme que j'ai épousé.
Vous lui en avez parlé?
Non, pas sur le coup. J'ai fait comme si j'étais pas au courant.
Elle remarque à nouveau, juste sous la douce surface du visage d'Alix, ce tressaillement, ce pincement. Elle l'entend déglutir difficilement. Elle s'apprête à lui donner le coup de grâce.
L'autre soir, vendredi, quand on est rentré du dîner chez vous, c'était la première fois, la toute première fois que j'osais parler à Walter de ce qui est arrivé avec Brooke. Et c'est pour ça qu'il...
suppose Alix en désignant le visage de Josie. Elle hoche la tête.
Oui, c'est pour ça. Absolument.
Elle s'interrompt pour le déjeuner. Alix fait griller des tranches de pain au levain et les leur sert avec du houmous et du baba ganoush. Elle lance un coup d'œil à Josie, assise de l'autre côté de la table de la cuisine.
Des nouvelles de Walter?
Non, aucune.
D'habitude, est-ce qu'il vous appelle après ce type d'événement?
C'est la première fois que je quitte la maison.
Donc les autres fois, vous avez simplement attendu que ça passe?
Oui.
Qu'est-ce qui était différent cette fois?
Tout, je crois. Depuis que j'ai 45 ans, je me sens différente. C'était le cas même avant qu'on commence ce podcast. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est allé dans ce pub le soir de mon anniversaire. On ne sort jamais dîner d'habitude. En tout cas, pas dans ce genre d'endroit. Puis je vous ai rencontré et...
Alix fixe Josie sans bouger, refusant qu'un mouvement ou un clignement de ses yeux ne trahisse le désarroi qu'elle ressent au fond d'elle.
C'est comme si c'était mon chemin, mon destin. C'était un point de bascule dans ma vie, l'occasion de reprendre le contrôle de mon histoire, de me délester, de dire ma vérité, de changer. Alors vendredi soir, quand il a levé la main sur moi, j'ai su que ça allait être différent cette fois. J'ai su que j'allais partir, que je ne reviendrai jamais.
Alix a du mal à avaler sa salive. Quand vous a-t-il frappé pour la première fois?
Ah, c'est dur à dire précisément, vous savez. C'est quelque chose qui s'est mis en place lentement, en fait. Avant, il me poussait. Ça a commencé à peu près au moment où il est devenu violent avec les filles. Je préférais ça d'une certaine façon. C'était mieux qu'elle me pousse moi plutôt qu'elle. C'est choquant quand on y pense. Un homme comme lui, grand, qui violente des filles, des femmes, leur fait du mal. Enfin, c'est presque impossible à imaginer, un peu comme les gens qui frappent les animaux.
Josie baisse les yeux vers Fred, assis à ses pieds, qui la fixe intensément. Elle détache un morceau de pain trempé dans le baba ganoush et le lui tend. Il le mâche avec enthousiasme.
Est-ce qu'il a déjà fait du mal à votre chien?
Non, jamais. Mais ce n'était qu'une question de temps, j'imagine.
Elle lui donne un autre morceau de pain et lève les yeux vers Alix.
Et vous? Est-ce que Nathan vous a déjà frappé? Ah non, mon Dieu!
Et en prononçant ces mots, Alix entend l'impression que cela donne. Celle d'une femme privilégiée et imbue d'elle-même, d'une personne qui vivrait sur un plan complètement détaché de celui où évolue Josie, et comme si seulement une femme comme elle pouvait avoir un mari qui la bat, comme si seulement les femmes ayant grandi dans des HLM, mariées à des électriciens, pouvaient être victimes de violences conjugales, quand, bien évidemment, ce n'est absolument pas vrai. « Non, » répète-t-elle d'une voix plus neutre,
Jamais.
Et les enfants?
Non. Ni Nathan ni moi n'avons jamais frappé les enfants.
Josie repousse son assiette et plonge son regard dans celui d'Alix.
Mais de toute évidence, vous avez d'autres problèmes. L'alcool, pour commencer.
Oui, c'est vrai. Même si j'espère bien que, après ce qui s'est passé vendredi soir, cela ne se reproduira plus.
Alors ça, on verra bien, n'est-ce pas?
Et il y a dans le ton de sa voix quelque chose qui lui fait penser que Josie souhaite activement que Nathan recommence à sortir, commette un péché capital, foute tout en l'air, qu'elle veut absolument que Nathan soit aussi mauvais que Walter.